I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sculpté par Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. On reprend le fil dans ce second épisode de notre discussion avec Cédric Héroux et on reprend les choses pile là où on les avait laissées, à savoir la longue, très longue surveillance policière dont il a fait l'objet pendant 2 ans.
Et ça dure 2 ans, quoi. Et ça dure 2 ans où ils sont autour de la maison. Mais chose qui aussi est interdite, c'est qu'un préfet n'a pas le droit de mettre sous surveillance quelqu'un. S'il y a une personne qui peut mettre en surveillance, c'est un procureur ou un juge d'instruction. Et on va encore au tribunal administratif, et le préfet dit non, c'est pas vrai, on n'est pas là tout le temps. Héroux, c'est vrai qu'il a payé un huissier matin et soir pendant une semaine pour constater qu'on était là, et entre deux, on n'était plus là. Et t'as-tu... Ah ouais, en fait, il aurait fallu que pendant plusieurs jours, on paye un huissier constamment pour que... Bon, un huissier, je sais pas ce qu'il mange à midi, mais en tout cas, ça se paye cher, et c'est cher. Et là, tu te dis, putain, il est gonflé, le mec. Et le préfet lui-même... ment à la justice, en fait. Mmh. Et tu dis, un préfet peut prendre 50 bonhommes, là, et les mettre autour de chez qui il veut, comme ça, aux yeux de tous, hein, parce que tout le monde voyait qu'il y avait des flics autour de chez moi, et là, tu dis, il y a quand même un problème, quoi.
J'aimerais bien que tu racontes le premier passage devant le tribunal. Ton premier procès, donc c'est tout début 2017. Ce premier passage devant la justice, ça se passe comment ?
Ben, ça se passe que je suis pas encore super compétent en termes de droit, enfin de pénal, de droit pénal sur le droit des étrangers. Ça se passe qu'on prend, enfin la juge est très à l'écoute, mais me condamne quand même. Et moi, jamais de la vie, je pensais que j'allais être relaxé par la suite, hein, mais elle nous condamne à 3 000 euros d'amende avec sursis. Et le procureur de la République fait appel, et on fait appel aussi. Mais elle est assez compréhensive, quoi, de ce qui se passe. Mais elle dit, en fait, ce que vous auriez dû faire, c'est prouver qu'il y avait une nécessité d'agir et prouver que les personnes étaient vraiment dans un état où il y avait un besoin humanitaire, que c'était pas juste du passage de frontières, dans un but idéologique, etc., etc., quoi. Le procureur, elle est pas contente du tout parce qu'il... parce qu'on lui a demandé de pas être content, quoi. C'était le même qui m'avait fait bénéficier de l'immunité humanitaire au mois d'août 2016 et qui là s'acharne et qui, je me rappelle, à un moment, il dit « Oui, monsieur Héroux se sert des tribunaux comme une tribune, c'est un scandale. Il se sert de la justice comme un porte-voix pour ses idées politiques, etc. » Je rappelle que c'est lui qui me poursuit et pas le contraire, hein, que je suis pas là par plaisir et que s'il veut pas que je me serve des tribunaux comme une tribune, ben, il a qu'à pas me censurer. Mais après, du coup, on va aussi en cours d'appel d'Aix-en-Provence. Et là, c'est un procès assez horrible, quoi. Tout à charge. Je vois la haine dans les yeux de l'avocat général. Et le juge, pareil, machin. Je prends 8 mois de prison avec sursis.
C'est en août 2017 ?
Ouais, c'est ça.
Après cet appel, c'est donc cette condamnation à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il se passe quoi ?
On va en cassation.
Ouais.
En cassation, en fait, ça a une analyse...
Technique.
Ouais, technique, c'est ça. On fait pas du tout de fond, ni quoi que ce soit. On regarde les textes de loi, en fait. Est-ce que ça rentre ou pas, machin. Et là, du coup, en même temps, on fait une QPC. C'est une question prioritaire de constitutionnalité. On demande au Conseil constitutionnel si ce qu'on appelle le délit de solidarité ne met pas à défaut notre devise, liberté, égalité, fraternité, en sachant qu'à valeur constitutionnelle, il n'y avait que la liberté et l'égalité et pas la fraternité. Et valeur constitutionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on propose une loi, elle devait avant respecter que la liberté des gens et l'égalité, mais la fraternité n'est pas valeur... Oui, bien sûr, c'était dans la Constitution de par la devise, mais c'était pas valeur constitutionnelle. Mmh. Et du coup, la fraternité, donc c'est une date historique, hein, et juillet 2018. Donc la fraternité est à valeur constitutionnelle, donc la loi dite du délit de solidarité a été revue, et les législateurs ont reformulé cette loi. Bon, elle est encore écrite, elle est très mal écrite, mais bon. Et ils me rejugent avec cette nouvelle loi. Je suis rejugé à Lyon, donc c'est un procès super, super, super long, qui dure 6-7 heures. Et le juge est vachement à l'écoute. L'avocat général, il se trouve un peu comme un con parce qu'il s'y attend pas du tout et on a une défense qui le déstabilise. Et en fait, ce qui s'est passé, donc je refais un peu marche en arrière, donc on est au Luciole avec des Érythréens, des Soudanais, etc.
Donc qui est ce squat que vous aviez ouvert.
Voilà, ce squat qu'on avait ouvert. On est en octobre 2016. Et deuxième jour de squat, et on est averti que les flics vont venir demain matin à 7 heures. En fait, tu sais comment on est au courant de ça.
Non.
C'est un journaliste qui m'appelle, il me dit « Monsieur Héro, est-ce qu'on peut venir filmer demain à 7 heures ?» Je lui dis « Ouais, bah, viens plutôt à midi du mat, on sera réveillé. » Et il me dit « Non, je viens à 7 heures. » Et je lui dis « Pourquoi 7 heures ?» Il me dit « Ouais, parce que 7 heures, c'est bien. » Je lui dis « Mais de quoi, vous avez des infos, là ?» Il me dit « Ouais, bon, j'ai des infos. En fait, il me dit « Vous allez être évacué demain à 7 heures. » Je lui dis « C'est qui vous a dit ça ?» Et en fait, c'est Éric Ciotti qui lui a dit. Et Éric Ciotti lui a demandé de venir couvrir le fait que les flics viennent. Et donc, grâce à Éric Ciotti, je te remercie, Érico, profondément. On sait qu'ils vont venir le lendemain. Donc on prend une décision, moi j'étais contre au début, mais on prend une décision, c'est d'évacuer tous les majeurs, tous les demandeurs d'asile, parce que c'était risqué, on savait que les mineurs isolés ça allait passer, mais les majeurs, on se dit, ils vont être dégagés en Italie. Et en fait ce qui se passe, c'est que ça veut dire que eux ils s'attendaient à faire des contrôles d'identité pendant la perquisition, etc. Et des gens en situation irrégulière, il n'y en a plus en fait. Et en fait il n'y a pas de matérialisation des faits et de l'infraction. Et en fait, on arrive à Lyon, et au lieu de se servir de la fraternité mise dans la Constitution, nanana, on dit pour nous, il n'y a pas de personnes en situation irrégulière.
Ouais.
Et tu ne peux pas matérialiser l'infraction, donc on te baise, quoi. Et du coup, j'étais relaxé. Et ils ont fait appel au donc, retour en cassation. Donc, deuxième tour en cassation, c'est super rare. Hein. La Cour de cassation, il faut franchement deux lignes à lui répondre, il lui met un gros revers dans la gueule, il fait retourner chez ta mère, et le proc, eh bien, il retourne d'où il vient, et puis il lâche l'affaire.
Oui, puisque la Cour de cassation n'a même pas cassé le jugement, ils ont dit qu'il ne pouvait pas être saisi.
Non, qu'il ne pouvait pas être saisi.
Ils ont dit, qu'il n'y avait pas de raison qu'il soit saisi.
Non, il n'y a aucune raison valable. Mais bizarrement, je trouve ça super intéressant, et on aime bien ça. Et moi, j'ai des avocats avec qui je m'entends très bien. Il y a Zia Oloumi et Sabrina Goldman. Et ça nous plaît. Ça nous plaît parce que c'est super intéressant et qu'on a, on n'a même pas peur.
J'ai remarqué un truc, Cédric, c'est que quand tu parles de toi et de ceux qui t'aident, tu dis beaucoup « on » et « nous », comme s'il fallait remettre du collectif dans une lutte qui était devenue vachement personnalisée, pas par toi, mais par l'extérieur. On a beaucoup focalisé sur toi et qu'il y a l'idée de montrer maintenant qu'en fait, tu n'es pas tout seul dans cette histoire.
Non, mais après, c'est le rôle d'un porte-parole. Maintenant, on confond avec notre système politique des porte-parole avec des gens de pouvoir, en fait. C'est que tu peux être un porte-parole et être dans une dynamique de pouvoir collégial, quoi. Tu vois, qu'on parle de Cédric Héro médiatisé, on dit « il ». Et moi, j'ai besoin aussi de c'est peut-être un peu schizophrène, hein, mais j'ai besoin de séparer le moi et le Cédric Héro médiatique, quoi. Et à la maison, bah, évidemment, ça s'est fait. Là, je suis là en train de te parler, et pour l'instant, à la maison, ils font des trucs, quoi. Tu vois, là, on est en train de planter des tomates et machin, donc il y a du travail qui est fait à la maison, et beaucoup, beaucoup de jeunes, d'ailleurs, et beaucoup de femmes. C'est une lutte très féminine. Forcément, on a besoin d'être nombreux, complémentaires, et à la maison, c'est assez fluide. Tu vois, on fait quasiment pas de réunions, mais quasiment pas. C'est qu'en fait, les réunions, elles se font en discutant, en fait.
Ouais.
Et on est d'accord parce qu'on est, je pense, sensé et on est sensible. Et du coup, quand quelqu'un il a raison, il a raison, en fait. Tu vois, on va pas remettre un doute. Enfin, c'est assez fluide, l'organisation, et ça fonctionne assez bien. Et je suis assez content parce qu'on a essayé de travailler avec d'autres assos et c'est pas forcément le cas dans toutes les assos où c'est quand même pas mal de guerre de pouvoir, de concours de quéquettes et de savoir celui qui parlera le plus fort ou qui aura le plus d'aura et c'est vraiment une lutte très jeune et très féminine, quoi. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas, avec ces jeunes à la maison. Ouais.
Ça s'est transformé aussi beaucoup, cet espace où toi tu travaillais, qui était ton entreprise, ton exploitation agricole. C'est plus vraiment le cas maintenant, c'est devenu une antenne d'Emmaüs, je crois.
Ouais, je me suis fait grand remplacer.
Tu t'es fait manger par Emmaüs.
Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, on a créé une association qui s'appelle DTC. En fait, vous ne voyez pas, il est en train de me sourire.
Je voulais que tu racontes cette partie-là.
Mais ça s'appelle Défendre ta citoyenneté. Non, mais en fait, en vrai, on a fait une réunion pour la création et on a un peu trop picolé. Enfin, comme d'habitude, hein. Et on a appelé ça DTC pour dans ton cul, en fait, en honneur au préfet, et on a trouvé ce que ça pourrait dire.
Un acronyme qui marchait, voilà.
Un acronyme qui marche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chez nous, on fait des petites maisons en bois pour que les gens restent. Et on découvre ce que c'est que l'accueil moyen et long terme. C'est qu'avant, on faisait que du court terme. Et on découvre que les gens deviennent dépressifs. Et là, c'est, c'est un peu une claque dans notre gueule. Et on se dit, oh là là, et il faut absolument trouver une activité pour les gens, quelque chose. Et
Sauf que tu peux pas les faire travailler.
Ben, j'aurais pas pu en cachette, quoi.
Voilà. Comme c'était et le risque de ouais, faire ouais, du travail dissimulé.
Ouais, c'est ça. Et surtout, on est surveillé par les flics et tout. Et je me suis dit, bon, on va pas s'amuser à ça. Et on recherche des solutions et on découvre Emmaüs, les communautés Emmaüs que je connais, que tout le monde connaît, quoi. Et on se dit, bah, c'est quand même pas mal. Et on s'est mis en lien avec pas mal de responsables de communautés. Et on trouve la démarche intéressante sur le côté un peu punk que pouvait avoir l'abbé Pierre aussi et qu'ont les communautés d'Emmaüs. Et on se dit, bah, c'est quand même une bonne opportunité. Surtout, ils ont un statut qui est pas parfait, mais en tout cas, qui a le mérite d'exister et qui permet à des gens qui n'ont pas le droit de travailler, donc des gens en demande d'asile ou des personnes en situation irrégulière, de pouvoir avoir une activité et tout en payant des cotisations, etc. Donc, c'est intéressant. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai laissé mon exploitation agricole à l'association que j'avais créée, que nous avions créée. Et je suis devenu salarié de cette association. Moi, je gagne pas 8500 euros par mois. Pas loin, c'est le SMIC. Mais c'est suffisant parce que j'ai pas de crédit, j'ai pas de machin, tout ça. Et du coup, on est devenu à deux co-responsables de la communauté Emmaüs et on fait de l'agriculture. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'avant de venir dans la Roya, quand j'ai pris ce terrain-là, je doutais du fait que je puisse vivre de l'agriculture sur les terrains que je me suis dit c'est un terrain galère et tout. Et là, maintenant, on est quand même, on est 4 salariés et il y a 7 personnes qui sont compagnes et compagnons d'Emmaüs, c'est comme ça qu'on appelle les compagnes et compagnons. Et c'est un truc qui marche, c'est que bon, on n'est pas encore autosuffisant en termes de financier. Je pense que dans 2-3 ans, ça va le devenir. Donc on fait l'accueil inconditionnel aussi. Un truc à préciser, c'est qu'on accueille même les SDF français, tu vois. et du coup, donc il y a hommes, femmes, il y a des Français, il y a un Roumain, un Espagnol, un mec du Nigeria, un Tunisien, des gens avec papier, des gens sans papier. Et on fait de l'agriculture, donc des oliviers, du maraîchage, des tomates, les meilleurs du monde d'ailleurs. Et on est en bio, et on travaille, on fait des œufs aussi, des poules pondeuses. Et on a acheté aussi un lieu grâce au soutien de tous les gens qui nous filent un peu de thunes tous les mois. On a acheté un lieu qu'on est en train de rénover. Donc les compagnons vont aménager dans ce lieu au courant de l'été, enfin en septembre. Et du coup, ils auront des chambres un peu mieux que ce qu'ils ont maintenant. Et surtout, on va avoir une salle associative qui permettra d'être utile pour la vallée de la Roya, qui vient de se prendre une tempête dans la gueule. Et on a besoin d'un lieu pour se retrouver et inventer quelque chose. Et faire, on appelle ça tiers-lieu maintenant. Mmh. Et voilà, en fait, toute cette histoire pour dire que, bah, qu'au bout du compte, bah, on a créé quelque chose. C'est pas gros, tu vois. C'est 4 salaires, 6 personnes mises à l'abri. Et qui vivent ensemble, ça marche plutôt bien. Forcément, il y a des engueulades comme de partout, dans toute coloc et toute communauté, quoi. Et en tout cas, c'est une leçon de vie, je trouve. Et c'est, voilà, je suis assez fier d'avoir créé ce truc-là, avec les potes, quoi. Mais voilà, quoi.
Tous ces gens qui sont passé par chez toi, que t'as accompagné, que t'as croisé, t'as gardé des contacts avec celles et ceux qui sont
ouais, bien sûr. Ouais, par ouais, y a des, ouais,
où est-ce qu'ils sont maintenant, tu sais, bah, certains enfin, c'est dur de le dire pour tous, parce qu'il y en a eu beaucoup.
Ouais, mais il y en a eu beaucoup, il y a 2500 personnes qui sont passées à la maison. Mais il y a des gens, surtout, il y en a quelques-uns qui sont restés en 2017 pendant plusieurs mois et qui ont vraiment géré le CCH, le camping Cédric Héroux. tu vois, qui faisait l'accueil de nuit, qui faisait tout ce qui était administratif, les traductions, et qui gérait vraiment le truc. C'est quand même du boulot, parce qu'il faut, c'est compliqué, c'est qu'il faut nettoyer les couvertures de chaque personne tous les jours pour les problèmes de maladie, etc. Et qu'on est 100, 150, et ben, c'est plusieurs repas par jour, mais plusieurs, c'est plusieurs, c'est beaucoup. Donc les casseroles, elles font que tourner. Enfin, c'est quand même une activité à temps plein pour une dizaine de personnes sans problème. Et du coup, avec ces personnes-là, on est resté en contact. Hein. Enfin, globalement, ouais, on a des nouvelles. Et puis, c'est il y a des bonnes nouvelles. Et bon, après, il y a des mauvaises nouvelles. Donc, des gens qui se retrouvent sans papier aussi. Mais il y a au moins 80% des gens qui sont passés par la maison, qui ont le statut de réfugié. Et on se retrouve, ouais, avec des gens sans papes, quoi, qui restent sur le territoire, mais qui sont un peu éloignés d'une intégration optimisée, quoi. Donc, sans papier, c'est compliqué de s'intégrer correctement.
T'as l'impression que, à ton échelle, t'as contribué à faire changer le système, changer les choses?
Moi, je pense qu'on a un peu changé. J'ai vu une évolution entre 2016 et maintenant, en 2021.
En 2021, ouais. C'est officiel.
Et j'ai l'impression. Peut-être que je... Et puis, je m'en fous, de toute façon. Je suis pas là pour vouloir à tout prix changer les choses. Je suis là juste pour essayer de les changer, qu'on y arrive ou pas. Je m'en fous. C'est vraiment... Souvent, j'entends dire, tu vois, par les militants, oui, mais comme s'il y aurait une recette miracle, tu vois, le produit, tu vois, qui, le 3 en 1, tu vois, qui marche pour toujours. Mais tu sais, les gens de pouvoir qui maltraitent des minorités, ça a toujours existé. Il y a toujours une autre minorité qui a porté assistance à des gens opprimés, quoi. C'est une lutte qu'on gagnera jamais parce qu'un coup, ben, c'est un certain peuple, certaines nationalités, après c'est notre religion, après c'est les handicapés, après c'est les gauchers, les roux, les femmes, les enfants, chacun son tour, quoi. Et moi, je mettrai toujours du côté des gens martyrisés, quoi. Qui peut-être un jour martyriseront les autres, je sais pas. Mais en tout cas, il y a besoin de ce combat pour la justice au nom, pas forcément d'une idéologie ou d'une lutte pro-migrante ou quoi que ce soit, quoi. Je pense que c'est au nom d'une éthique et d'une morale. Parce que faire du mal aux gens, c'est pas bien.
C'est vrai, ceci dit. Merci Cédric.
Merci à toi.
Et je termine en précisant que ces combats, Cédric Herrou leur a consacré un livre, Change ton monde, c'est son titre. Il est paru en octobre 2020 aux éditions Les Liens qui libèrent. Je ne peux évidemment que chaudement vous le conseiller, tout comme je vous conseille de vous abonner à notre newsletter La Dose, notamment pour aller lire le très beau texte qu'il a eu la gentillesse de signer pour nous. Merci encore une fois à Cédric Herrou pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon, et c'est Adèle Itel El Madani qui a assuré la prise de son de cette discussion. Merci à tous les trois. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.